Aujourd'hui, dimanche 9 juin, je vais bien. Je vais même hyper bien. Je suis en parfaite harmonie avec la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui. Je sens l'Esprit Saint descendre sur moi comme il le fit sur les apôtres. Des apôtres qui, une fois touchés, se mirent à parler toutes les langues pour aller porter la bonne nouvelle de par le monde. Today soy feliz, ich bin tellement contento, porque te vas la isla bonita, tovarich, my tailor is fucking rich. Moi aussi, oui, je suis frappé par le multilinguisme. Sinon, aujourd'hui, c'est aussi la journée de la santé du pied. Le pied, en voilà un instrument qui est délicat, alors protégeons-le. Oui, prenons soin de nos petons, de nos panards, de nos pinceaux. Ne laissons pas passer l'envahissante verrue qui nous bouffe la plante. Chassons le corps qui s'attaque aux arpions délicats. Bannissons le durillon, l'œil de perdrix et bien sûr, l'odeur de la transpiration qui vient se coller entre nos orteils et y mijote. Pour qui se libère une odeur prenante, prégnante, qui brûle les yeux et pique le nez. Oui, aujourd'hui, tout particulièrement, soignons nos pieds. Bon, ben sinon, aujourd'hui, excellente nouvelle. C'est l'anniversaire de quelqu'un d'importance. C'est l'anniversaire de Stéphane Plaza. 49 ans, l'agent immobilier au sourire de ravi de la crèche. Vive toi, vive ton talent, vive cette époque imposture où faire visiter une maison en disant aux anciens propriétaires « Vous avez des goûts de chiottes » peut faire de vous une célébrité. Vous les femmes. Bonjour et bienvenue dans Vous les femmes, l'émission du dimanche, podcastable à volonté bien entendu. Pour m'accompagner, l'homme de tous les talents qui est en train de se gratter l'œil, j'espère qu'il est réveillé, qu'il n'essaie pas de l'ouvrir. Il en chiale. Albert Almou, ça va ?
Ça va d'autant mieux que la Coupe Davis se termine, vous savez de quelle façon. Oui. Et mais la Coupe du Monde de football féminin ou féminine se poursuit et c'est passionnant. Et donc je préfère la Coupe du Monde féminine à la Coupe Davis. Roland-Garros. C'est pareil. C'est du tennis. Oui, je préfère les grosses balles aux petites.
Enfin, on est dimanche.
Voilà, on est dimanche.
Il préfère les gonzesses aux mecs, voilà.
Et il commence à faire chaud. Mais c'est vrai qu'on a une belle Coupe Davis. Hein. Une super Coupe Davis. Et nos invités en ce dimanche 9 juin sont...
France Inter. Vous les femmes. Daniel Morin.
Directrice de la com et du patrimoine chez Gaumont, elle vient nous parler de son père, un père figure emblématique du cinéma français qui s'occupait plus de cinéma que de ses enfants, en croire son livre. Un homme qui a lui aussi marqué le destin de la Gaumont, elle lui consacre un livre avec l'aide de la plus grande critique ciné de l'espace francophone libre et démocrate. Un livre intitulé « Toscan, papa et moi » aux éditions de La Martinière. Ariane Toscan-Duplantier, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Tout à l'heure, hors antenne, nous tenions des propos qui étaient d'une drôlerie incroyable. J'espère bien que ça va continuer. Un livre écrit en collaboration, j'en parlais avec la brillantissime journaliste cinéma de Télérama, du Cercle sur Canal+, mais aussi collaboratrice de haute volée de France Inter. Elle est présente le vendredi chez Ali Rebelli dans Grand Bien Vous Fasse. Elle revient de Cannes, le temple du cinéma, le temple des vieilles peaux liftées, des implants capillaires gominés. Elle fait partie du comité de sélection du dernier festival. Elle est au courant de toutes les magouilles orchestrées par Pierre Lescure, Guillemette du cinéma. Bonjour, comment allez-vous ?
Mais bonjour Daniel, vous n'êtes pas trop essoufflé ? Je ne sais plus où me mettre, hein, je rougis. Mais je peux dire que Ariane tout à l'heure parlait serviettes hygiéniques, en fait.
C'est
ben
vrai,
oui,
c'est
bah
vrai.
Quoi,
on est dans les femmes.
Oui.
Bah oui.
Mais on est des femmes, non ?
On est là pour ça, non ?
Absolument.
On est là pour ça,
okay.
Entre autres.
Très bien, un gros chapitre serviettes hygiéniques à suivre. Et face à ces deux représentantes du cinéma, comédienne, scénariste, auteur, metteur en scène, chaque fois que je la crois, je la trouve drôle, incisive, intelligente, différente. Elle a fait du sol en scène, elle a créé sa propre compagnie de théâtre, elle écrit des scénarios, a été chroniqueuse à la télé, à la radio. Aujourd'hui, elle vient nous voir pour parler de deux pièces dans lesquelles elle joue au théâtre du Rond-Point, Retour et Le père de l'enfant de la mère de Frédéric Bradberg, mis en scène par l'excellent Frédéric Bellier-Garcia. Bienvenue à vous, comment allez-vous Camille Chamou ?
Mais très bien. Je suis ravie de passer ce dimanche avec vous, Daniel Morin.
Oh, ça me fait un plaisir fou. D'ailleurs, vous êtes venu avec votre fils.
Oui, je suis venue avec le digne représentant des hommes ici. Il a 4 ans, il s'appelle Constantin et il est dans la régie en train de m'écouter.
Et c'est vrai qu'on ne fait pas les malins sous le regard de Constantin.
Qui a déjà un œil de sénateur.
C'est ça. Le Gérard Larcher de la maternelle est avec nous. Alors voilà une présentation un peu sommaire, j'en conviens, mesdemoiselles. Pour vraiment mieux vous connaître, je vais laisser la parole à un ami cousin d'un célèbre orthophoniste des stars. Bonjour Jean-Dominique Besnéard.
Joubi-joubi-jou, vous les femmes. Bonjour Dany.
Bonjour.
C'est mon cousin Dominique. Roi du casting était ici, je serais fou de joie quel casting sans sens. Laurence Chamoux, actrice exceptionnelle. Ariane Toscan-Duplantier, fille de producteur charismatique. Guillemette Odissino, vibrante incarnation de la cinéphilie absolue. C'est la fiesta du cinéma.
Et oui, aussi la fiesta du théâtre avec Camille Chamoux.
Mais enfin, c'est la Coupe Davis.
Le syndrome Coupe Davis. En plein Roland-Garros.
Oui, je l'appelais Laurence, comme ça, ça sonnait mieux. Mais enfin, ça va pas de me couper le sifflet. Hein. C'est ce que j'allais dire de toute façon. Oui. Camille Chamoux est sur scène en ce moment dans Deux pièces insensées. Retour avec un S, il fallait le préciser. Nuance essentielle, suivi de Le père de l'enfant de la mère.
Vous êtes allé voir ces pièces au théâtre du Rond-Point?
En tant qu'orthophoniste des stars, je ne pouvais pas louper ça. D'abord pour la prestation de Camille Chamoux, dont j'apprécie le jeu, bien sûr, que ce soit au cinéma, dans ses seules en scène.
C'est One Woman Show.
One Woman Show. Mais enfin, Daniel, on est sur France Inter ou sur France Rosebif? Vous ne pouvez pas nommer les choses en français? Donc, je dis, en tant qu'orthophoniste des stars, je ne pouvais pas manquer Camille Chamoux dans une pièce où les dialogues sont composés à l'instar d'une fugue musicale, ce qui confère aux scènes successives de ces deux pièces une résonance à la fois originale et universelle. Vous voyez, Daniel, moi aussi, j'aurais pu écrire dans Télérama.
Je voulais dire comme l'excellente Guillemette.
Mais c'est ce que j'allais dire.
Ouais, dites-le.
Mais bon, je plaisante parce que Guillemette, c'est une sacrée plume et une sacrée voix. Et je vous le dis, en tant qu'orthophoniste des stars, son élocution est aussi captivante que ses sujets qu'elle traite avec passion.
Passion du cinéma, donc, qui anima aussi Daniel Toscan-Duplantier.
Mais c'est ce que j'allais dire.
Dites-le.
Daniel Toscan-Duplantier, dont Ariane, sa fille, avec Guillemette Odissino, le cinéma, elle est partout, celle-là, raconte le destin singulier dans un livre que mon cousin adorait, parce qu'il faut voir les artistes prestigieux qui figurent au générique. Hein. Patrice Serrault, Téchiné, Bresson, Bergman, Fassbinder, Tarkovsky, Zirzik, Sokl, Moklik,
Jerzy Skolimowski.
Mais c'est ce que j'allais dire.
Vous
allez dire aussi que c'est un livre sans sas, passionnant. Bonne émission et joubisou à tous. À toutes.
Zoubisou à toutes. France Inter, vous les fans, nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Ah, je sais que c'est le genre de musique qui vous fait plaisir, en tout cas à vous Guillemette. Earth, Wind and Fire, let's groove.
Down.
Earth, Wind and Fire, Let's Groove Tonight. Vous les femmes, France Inter jusqu'à 18h.
Vous les femmes.
Et uniquement les femmes.
Daniel Morin.
Ah oui, les femmes vont apprécier.
Sur France Inter.
En compagnie de l'excellente Camille Chamois, l'affiche de deux pièces, Retour au pluriel, et Le père de l'enfant de la mère, deux pièces courtes, signées Frédéric Bradberg, mise en scène par Frédéric Bellier-Garcia, au Théâtre du Rond-Point, jusqu'au 30 juin. Également avec nous autour de cette table, Ariane Toscan Duplantier, Toscan, papa et moi, aux éditions de La Martinière, écrit avec la complicité de l'excellentissime journaliste de Télérama, Guillemette Audicino, ici présente également. Mesdemoiselles, si vous le voulez bien, nous allons revenir sur quelques dates marquantes de vos parcours. On commence par vous, Ariane. On commence le 11 décembre 1995, l'arrivée chez Gaumont. Racontez-nous ça.
Déjà, grève.
Ah, le jour d'arrivée, c'est
11 décembre 1995.
On a l'impression d'une arrivée à Radio France.
Ouais. Bonne grève. Donc, venons à pied et à vélo.
Ouais.
Donc, arrivons tout de suite transpirantes dès le premier jour et suintantes. Je pensais être plus maline et faire une espèce de, pas carrière, mais un parcours un peu différent. Mais finalement, non. Comme tel un aimant, je me suis retrouvée arrivant chez Gaumont, en troisième Toscan du nom. C'est-à-dire que
c'est la dynastie Toscan qui continue à... Bah, c'est une grande histoire d'amour.
Oh, bah oui.
Très, très grande histoire d'amour.
Alors après, je suis celle qui est restée le plus longtemps. Je pense que j'ai peut-être gagné un petit concours.
On en parlera tout au long de l'émission. Bien évidemment, ça, c'était la première date de votre parcours. On va revenir sur la première date importante dans le parcours de Guillemette Audicino. C'est le 10 mai 2000, avec la sortie de...
C'est Jimmy Tudeschi, dit la tulipe. Jimmy la tulipe a été un tueur à gages.
Sexy.
Sophie, ce type a tué 17 personnes!
Écoutez, Jimmy, j'ai pas du tout envie de mourir. Faites-vous à cette idée parce que ça va vous arriver.
Quoi?
Tout le monde meurt. Tôt ou tard.
Mon voisin le tueur, alors là, on va écouter sa voix en version originale. Yippee-ki-yay, motherfucker! Ce délicat motherfucker, c'est Bruce Willis.
Oui,
et c'est pour le film Mon voisin le tueur. Racontez-nous cette anecdote.
Je dois ma carrière à Bruce Willis.
Comme beaucoup d'entre nous.
C'est la classe.
Comme beaucoup
c'est
d'entre
à
nous.
C'est-à-dire bah parce qu'en fait, je suis arrivée à Télérama par des chemins ô combien buissonniers. Ouais. En écrivant une lettre folle, en disant à 30 ans, vous n'avez pas besoin de moi par hasard. Et en fait, ça les a fait marrer, ils m'ont fait venir. Mais j'ai en fait obtenu un truc assez dingue, c'est-à-dire un stage d'observation de 15 jours à 30 ans.
Très bien.
Mais évidemment, j'avais pas d'assurance, etc. Il y a pas de convention de stage hein, quand on a 30 piges. Donc on m'a dit surtout, vous cassez pas la gueule dans les escaliers, mais vous pouvez rester dans un coin du bureau. Et au bout des 15 jours, le rédacteur en chef cinéma, il y avait une réunion, a dit « Qui a vu Mon voisin le tueur ? Qui est allé en projection de presse pour voir ce film ?» Et là, il y a personne qui lève la main de tous les journalistes cinéma de Télérama. Et moi, dans le coin, là, tout au bout, à côté du radiateur, je dis « Ben moi ?»
Une audace.
Wow. Moi, j'y suis allée. Et là, je revois encore la tête de Jean-Claude Loiseau, donc mon rédacteur en chef à l'époque, qui fait une tête genre « Merde !» Et il dit « Bon, bah, écrivez-moi un truc. » Et, c'est et j'ai écrit un truc, et le stage d'observation...
Il parlait comme Jeanne Moreau, alors, ce monsieur.
Non, c'était moi qui parlais comme Jeanne Moreau à l'époque, déjà. Et en fait, ce texte a fait que je ne suis plus jamais partie de Télérama.
Et donc, vous avez gardé ce statut de stagiaire depuis, vous savez.
Ah oui, oui, c'est ça, je suis toujours stagiaire à côté du radiateur.
Toujours stagiaire. Camille, en 2000, tout pile, premier engagement rémunéré, c'était au théâtre Sylvia Monfort.
Exactement.
Ça donne quoi comme effet? On se dit, ça y est, c'est fait.
On se dit, c'est l'aboutissement. C'est vrai, en plus, vraiment la première fois que je me suis dit, je vais vraiment être... Tous mes copains, ils étaient en plein dans leurs études. Et en fait, quand j'ai passé l'audition sans en parler à ma famille et tout, parce que vraiment, j'étais destinée à faire des études littéraires un petit peu poussées. Et voilà, et je leur avais pas dit du tout que je passais ce truc. Et quand je l'ai eu, je me suis dit, bon, allez, je peux leur dire, parce que je vais gagner ma vie, donc ça va passer crème. Parce qu'il m'a dit tu vas gagner ta vie pendant 3 mois et après non, parce que qui c'est vrai, va là, gagner ta vie
on revient, bah, sur, nous, hein. On revient sur vos études, vous avez fait Hippocagne,
j'ai fait Hippocagne, Gagne, j'ai raté Normal Sup et j'ai passé cette audition.
Voilà.
Et voilà. Et en fait, j'ai travaillé très régulièrement après au théâtre Sylvia Monfort, donc je n'ai pas ponctionné mes parents, qui aujourd'hui sont très soutenants. Mais à l'époque, l'étaient moins. Je m'en fous, ils écoutent pas France Inter. Je peux balancer.
Et c'est pas grave, maintenant tout va bien.
Je les aime quand même.
Ariane, le 7 mai 1997, présentation du 5e élément au Festival de Cannes. Le 5e élément qui est un film avec...
Bruce Willis.
Avec l'excellent Bruce Willis.
Ah, vous avez trouvé le conducteur dans l'émission.
C'est une spéciale Bruce Willis.
Peu de temps après mon entrée chez Gaumont, en fait, il m'explique que je m'occupais de la presse internationale du cinquième élément. J'avais jamais trop fait ça. Bon, donc là, je suis arrivée avec un film, peut-être un chouïa gros pour une première, pour mon stage non rémunéré. Et là, en effet, Bruce Willis. Ah bah moi, j'avais pas osé adresser la parole à Bruce Willis, mais j'avais été parler à son attaché de presse.
Ah, c'est génial l'anecdote que vous racontez. Parlez-nous de ça.
Non, mais on est dans l'espèce d'ascenseur. Il faut savoir que dans le Festival de Cannes, il y a un ascenseur, mais digne des grands hôtels où on met l'hôpital, où on met les lits. Truc énorme, d'accord. On rentre à 40. Donc on est tous là-dedans pour aller à la conférence de presse. Bon, moi je surventile, ça fait 3 semaines que je dors pas. Je fais des plannings toutes les 3 minutes où c'est impossible avec Citalor. Enfin bon, un truc, un enfer. On se dit, ils vont pisser, il y a 10 interviews qui passent. Donc je fais comment? Enfin bon. Bref, on est en ce genre-là, j'ai Bruce Willis devant moi. Bon, on est quand même un peu impressionné devant Bruce Willis. Je me dis, je vais parler à son attaché de presse. Hein.
Ouais,
donc je vais,
normal.
Bonjour, hello, hi Marianne. Et là, mon directeur général à l'époque me prend à part en me disant, tu n'as pas le droit de lui adresser la parole. Je dis, mais je comprends, parce que moi, je suis un petit peu attaché de presse aussi. Bon, j'ignore, certes, face à un monsieur un peu plus âgé, certainement un peu sénior. Tu ne t'en rends pas compte, c'est une pointure. Tu ne peux parler qu'au sous-fifre. Et là, j'ai rabattu mon caquet et je suis rentrée malheureusement pas dans mon petit coin de table parce qu'on a eu 3 jours un peu compliqués. Voilà, expérience un peu marrante, le cinquième élément à Cannes.
Contact avec Hollywood.
Ouais. Ah bah, gros contact. Eye contact. Je dirais même plus.
Mais l'attaché de presse à qui on ne peut pas adresser la parole. Il y a des castes aussi chez les attachés de presse.
Ah ouais, des stars. Enfin, à l'époque, je pense que maintenant, Bruce Willis, je pourrais même éventuellement avoir un touch contact. Mais à l'époque, il était au max. Mais il y avait aussi Chris Tucker qui était quand même assez barge aussi. Et puis non, mais c'est une expérience dingue, cette ouverture.
À Chris Tucker, vous racontez qu'il se met une mine mémorable et qui n'arrive plus à parler quasiment pendant la
lendemain, junket. Le lendemain, il n'est pas au mieux. On va dire qu'il arrive un peu palo. Et les junkets, bon, j'en fais moins aujourd'hui.
Rappelez-nous le principe.
Alors, les principes, on les met chacun dans une pièce et on leur change, les journalistes, toutes les 3 minutes. Et voilà. Et donc, on les met et tout d'un coup, ils disent, je peux aller aux toilettes. Donc, Chris Tucker, qui avait besoin de se rafraîchir pas mal dans la matinée, il est allé beaucoup aux toilettes. Bon, aux toilettes, 10 minutes par 3 minutes. Bon, bah, on voit à la fin combien il y a
de retard.
Non, pas à leur place.
L'univers féerique du cinéma.
Oui, c'est ça.
On va passer à l'univers féerique de la télévision. Guillemette, en 2007, c'est le crash test et le palmomètre, c'est Canal+.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ces deux histoires?
Bah, c'est idiot, mais c'est un peu... Tout d'un coup, on passe des petits castings. Nous aussi, on est journalistes de la presse écrite. Et puis, il y a quelqu'un de gentil qui dit à quelqu'un de gentil ou quelqu'un d'un peu important... que pourquoi pas montrer votre bobine à la télé. Donc vous rencontrez des producteurs, vous dites 3 choses un peu marrantes, et ils se disent ok, et en fait et vous vous retrouvez en train de balancer des... Alors oui, c'est le crash test et tout ça, c'était des émissions sur Canal qui étaient très cut, où les critiques de cinéma étaient censées...
Je tiens à dire que c'était horrible pour nous. Parce que, alors, les films,
pour les films,
à la poubelle,
les films,
en
c'était
12
violent.
Secondes.
Enfin, bah, quand on les aimait, non.
Non, enfin bon, quand vous les aimiez pas.
Mais c'est vrai que c'était des taglines, c'était très... Mais c'était drôle à tourner. Et puis c'est drôle que... Alors nous, évidemment, enfin moi, en tout cas pour ma part, je ne me regardais jamais à la télé, mais on commence à recevoir des textos de... de ma cousine, de la copine, de la grand-mère du truc, qui dit « Oh là là, on t'a vu à la télé et tout ». Et le truc vu à la télé, bah faut être honnête, c'est... Il y a un petit truc sur l'ego et tout. Après, ça passe, mais au début, le côté vu à la télé,
tu
c'est quand même marrant.
Tu l'as pété à l'époque.
Voilà, je me l'ai pété grave, Albert.
C'est une occasion de retrouver ses
mais
cousines.
Mais non, mais c'est... En tout cas, ça fait des petites récréations et des petites paillettes quand on est dans la presse écrite. Et... Parce que ça se tourne vite.
Et vous êtes resté, ou Canal est resté fidèle à vous, puisque vous êtes toujours dans le cercle avec le seigneur.
Là, c'est plus. Là, c'est on prend plus de temps.
C'est mieux, et... on préfère, nous.
bon, alors les.
Tu te fais démolir sur la longueur. Ou tu te fais encenser sur la longueur.
On argumente plus pour démolir.
Ouais,
en fait.
C'est ça, au moins c'est justifié. La télé également, Camille. La classe en 2005.
Et oui, alors ça, c'est une émission qui a fait date. Hein. Ça a marqué les esprits, la réédition de La classe. Je défie qui que ce soit d'avoir vu une de ces émissions. Mais par contre, elle était animée par François Rollin, qui est génial. Et surtout, c'est par un concours de circonstances également complètement absurde que je suis arrivée sur cette émission. Parce que je n'avais jamais fait ni de télé, ni d'image en général. Et j'avais un copain qui allait passer, qui était humoriste plus ou moins, et qui allait passer leur truc. Et puis voilà. Et je me suis retrouvée sur cette émission. Et c'est comme ça, j'ai écrit un sketch pour cette émission. Et c'est à partir de là de cette émission que j'ai décidé d'écrire un seul en scène. Il y avait Pierre Palmade qui était l'invité de l'émission et qui m'a dit en sortant « Non, franchement, t'es humoriste !»
Quel dragueur, Pierre Palmade.
Ouais. Et j'avais dit « Non, mais en fait, je suis là vraiment par hasard et tout, parce que moi, je voulais vraiment être Patrice Chéreau à l'époque, j'étais sur autre chose. J'étais pas sur ce dossier. Et donc, j'ai dit « Non, mais j'ai testé un truc et tout, ça m'a... mais je crois pas du tout que c'est mon... » Il m'a dit « Mais si, c'est complètement ton truc et tout. » Et en fait, je me suis dit « Tiens, bon, je vais essayer et tout. » Et puis, je me suis entraînée et ça m'a... Voilà. Mais je pense pas que le sketch a marché. Je veux dire, je pense pas que l'émission a marché. Je pense que globalement, c'est quelque chose qui n'a pas fait date. Mais ça m'a quand même amenée à l'expérience de l'écriture humoristique et de l'écriture solo, quoi.
En tout cas, Pierre Palmade, sa réflexion, là, ça, pour le coup,
ça
a fait
mouche. Ça m'a marqué. Mais
c'est bienveillant.
Oui, c'est très bienveillant. Ouais. Et puis, je l'aimais énormément. Et c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. Voilà.
Guillemette, vous, c'est 13 septembre 2014, on se rapproche de plus en plus, c'est Pop Fiction, épisode 3.
Bah oui, c'est Ali Rebéi, que Éric Libiot, autre chroniqueur de Ali Rebéi, me présente un jour dans un bistrot. Il me dit, t'es dans quel coin de Paris? Je dis, bah là, je suis en train de boire un pot avec un type que j'aime beaucoup et tout, est-ce que tu veux passer? Je passe. Et quelques temps après, Ali Rebéi m'appelle en disant, est-ce que vous voudriez... intervenir sur Pop Fiction.
Faut toujours aller boire des pots.
Faut aller boire des pots.
Mais faut aller boire des pots. Faut aller
boire des pots. Aller boire des pots.
Faut aller dans le métro. En fait, faut être dans le métro en attente de
recevoir
des messages. faut patienter.
C'est comme ça que la ville est
centrale.
Hein.
Plutôt sur la vers Châtelet. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, vers Châtelet. Puis comme ça, on peut se déplacer facilement. Et après, on découvre. Mais comme on découvre avec beaucoup de gens dans cette profession, quoi qu'on en dise, on découvre...
L'enfer de l'alcool.
Tout. Mais on découvre la fidélité de certaines personnes. C'est-à-dire qu'après, Ali change d'émission, c'est plus Pop Fiction, ça devient Grand Bien Vous Fasse, ça devient Ça Va Pas La Tête. Et à chaque fois, il estime, il le dit souvent à l'antenne, il estime qu'on fait partie de sa famille. Bon. Et ça fait chaud. Parce qu'on est le milieu des médias, on va pas le redire, c'est pas si facile que ça.
Oh, non, c'est pas que des sympas.
Les places sont chères, les concurrences sont agressives.
Un
petit jingle de oh.
Tiens, tu nous
envoies un petit Bruce Willis. Et on tombe sur des gens comme d'ailleurs. Albert et Daniel, je le dis comme
c'est
je le pense.
C'est pas dans le bon ordre.
Daniel et Albert. Et comme Ali Rebéi, c'est des gens où avoir confiance absolue et aveugle avec les gens avec lesquels on travaille, c'est une grâce.
C'est un luxe.
Absolument.
Camille, oui. 2013, grosse année pour vous. 2013.
Ah oui, 2013, grosse année.
Née sous Giscard. Alors parlez-nous, parce que c'est un carton, on est sous Giscard.
Oh, c'est génial.
Formidable. C'est gentil.
Mais merci, toute la presse, vous faites la couverture de plein de magazines.
Oui, alors ce qui est marrant, c'est que c'est le truc le plus personnel que j'ai écrit. Enfin, jusque-là, je me disais, j'avais déjà fait un premier spectacle comique où j'essayais de faire rire un maximum de gens. Enfin, on se dit, il faut essayer de trouver dans l'écriture, dans les sketchs qu'on fait, des choses très mainstream, etc. Très grand public et tout ça.
Un premier spectacle qui avait très très bien marché.
Qui avait bien marché,
qui était
chouette, mais... Et qui en avait inspiré quelques-uns.
Ouais, ouais.
Mais toujours est-il que là, je me suis dit, ah oui, j'ai envie de raconter cette génération. Espèce de, moi, je suis vraiment la queue de race, si je puis dire, de la
c'est
génération
Giscard. C'est une jolie expression.
Bien, c'est
je suis une queue de race.
Queue de race de Giscard. Fin d'époque.
La queue de comète aussi, qui était possible.
Vraiment, à 3 ans près, j'étais Mitterrand. Et ça y est, c'était le glam, la génération Mitterrand, la folie. Bon, non, mais non, moi, je suis vraiment génération Giscard.
Il est venu vous voir.
Il est venu complètement me voir le 9 mai. Je m'en souviendrai toute ma vie, le 9 mai 2014. Et voilà. Et c'est vrai que j'ai écrit ce spectacle Né sous Giscard en me disant, bon, on va bien voir qui. Et c'était le truc le plus personnel que j'ai écrit. En fait, c'est le truc qui a le mieux marché. Et donc, ça a été un vrai tournant parce que c'était un solo et que c'était une façon très personnelle d'exprimer énormément de choses sur ma génération. Et qu'en fait, je pense que j'ai trouvé à ce moment-là une forme d'identité artistique, quoi. Et en même temps, j'ai écrit Les Gazelles,
voilà,
qui était un film inspiré du premier One Man Show que j'avais écrit, Camille Attac, et qui était une histoire d'une jeune femme qui se retrouve confrontée au célibat, qui a une longue histoire d'amour et qui se retrouve confrontée au célibat à la trentaine, et le célibat la rend suspecte.
Alors Les Gazelles, justement, on va écouter un petit morceau.
Attends, ça va pas du tout.
Une crise d'angoisse.
Mais je suis pas angoissée, putain, j'y arrive plus. C'est quand même beaucoup plus rigolo de se retrouver célibataire à nos âges que de rester avec quelqu'un quand ça va plus.
Ce qui est bien dans les ruptures, c'est qu'en moyenne, tu perds de taille.
Qui t'as envie de pécho?
Tout le monde s'inquiète pour toi.
Je suis célibataire, je suis pas malade. Pourquoi tu veux que je m'en aille? Il est hyper gentil, il m'a caressé la joue sur le vent.
T'appelles comment?
Dans les ruptures. tu perds de taille. C'est atroce, c'est atroce. Mais là aussi,
je l'ai encore dit il y a 4 jours à une copine. Ça... Dit, mais c'est génial. Dans une rupture, tu perds de taille.
Guillemette.
Ah oui, c'est un film épatant. Moi, je l'ai découvert pour Télérama. Oui. Je suis rentrée de la projection en disant, mais c'est le film de Nana de maintenant. C'est parce que c'est à la fois, il y a tout, le dosage est parfait. C'est-à-dire, d'abord, bon, c'est hyper drôle, le casting est nucléaire dans ce film. Et en plus, il y a ce dosage qu'on cherche tout le temps, c'est-à-dire de féminisme, mais au sens de d'émancipation, mais même un peu bordélique et tout, de vraie complicité entre gonzesses. C'est un film de meuf, quoi. C'est un truc, mais pour ceux qui l'ont pas vu, foncez dessus. C'est un film en plus, c'est aujourd'hui et maintenant, ça résonne, mais grave.
Ah, ça me fait plaisir.
C'est Est-ce qu'on peut trouver un meilleur attaché de presse ?
Non, je crois pas. Je crois pas, merci.
C'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut voir le film.
Ouais, c'est bien.
Ariane, on passe à mai 2019. Toscan, papa et moi à la Martinière, un livre que vous venez nous présenter aujourd'hui sur France Inter. Alors le point de départ est assez paradoxal et parfaitement illustré par la réflexion, une réflexion de votre frère David. Quand vous lui annoncez que vous allez écrire ce livre, il vous répond « Qu'est-ce que tu vas raconter ? On ne le connaît pas. »
C'est vrai. Mais en fait, le point de départ du livre, c'est même ma mère qui raconte une anecdote que je trouve finalement en l'écoutant. Enfin, j'ai un petit contre-coup, je me dis que c'est épouvantable ce qu'elle raconte. En fait, je ne connais pas ces gens qui sont mes parents. Et je me dis peut-être que je vais me pencher un peu plus sur la question. Je voulais en fait apprendre à le connaître mieux. Et je voulais me le réapproprier. En fait, finalement, après coup, j'ai compris la démarche, après l'avoir fait.
Donc, vous parlez donc de Daniel Toscan Duplantier. On a tous entendu le nom de Daniel Toscan Duplantier. Mais qui était-il, en fait, Guillemette ?
Ah, c'est moi qui le dis, du coup. C'était pas mon père, donc moi, je peux me permettre.
Oui, c'est pour ça.
Oh là là. mon Dieu.
C'est ce que tu dis, Guillemette.
Mais d'abord, il a travaillé dans le milieu de la presse. Après, il est donc rentré chez Gaumont. Et a insufflé à Gaumont, qui était une grande maison, mais peut-être qui s'endormait un petit peu sur des succès, qui ronronnait un petit peu, a insufflé une espèce d'envie d'auteur, mais de cinéma d'auteur qui puisse aussi rencontrer grand public. Donc, il croyait qu'il n'y avait pas impossibilité entre ambition de cinéma et rencontre avec le grand public. Je vais pleurer, je crois. Donc, voilà. Donc ça, il croyait ça. En revanche, côté cordon de la bourse, comment dire? Il a un peu mis Gaumont sur les dents, hein, à ce niveau-là. Donc,
ça lui a coûté sa place.
Ça lui a coûté sa place. Après, il est parti de Gaumont et devenu producteur indépendant. Pour ensuite, après, devenir une espèce d'ambassadeur du cinéma, c'est-à-dire qu'il a été président d'Unifrance, mais il était aussi dans les Césars, à Cannes, à la Cinémathèque de Toulouse, il était partout. C'était
sauf à la maison, en fait.
Sauf
ça.
À la maison.
C'est pour ça.
C'était l'incarnation. Oui, tu sais, on a écrit un livre là-dessus. Mais
l'incarnation. Le bel invisible.
C'était un mousquetaire du cinéma français.
Voilà, c'est un monstre de charisme, en fait.
C'est ça.
Très, très cultivé. Ses domaines de prédilection, c'était la littérature, la musique.
La musique classique.
Musique classique et littérature. Mais en ce qui concernait la famille, il n'y a plus personne.
Moins. Tout de suite, beaucoup moins.
Beaucoup moins. On y arrive vite en deux phrases. Beaucoup moins.
Non, père jeune, mais pas mal père quand même, parce qu'à l'arrivée, 5.
5 à l'arrivée. Et à chaque fois, avec des comédiennes de prestige à chaque fois.
Pas que des comédiennes.
Votre maman.
Ah, ma maman.
Marie-Christine Barrault. Il est avec votre maman, ça se quitte, ça revient, jusqu'à ce qu'elle en ait marre.
Et qu'elle se casse.
Ouais. Et elle va se mettre en couple avec quelqu'un qui va devenir, là, pour le coup, qui aura vraiment des attitudes de papa.
Michel Baron. Meilleur beau-père. Vraiment une chance formidable.
Il y a une anecdote qui est formidable. Vous avez une douzaine d'années, vous avez 12 ans, même vous êtes à Cannes pendant le festival. Vous êtes avec votre père, vous assistez à la projection du dernier Lelouch, qui est Les uns et les autres. Votre papa vous présente Lelouch. Qui vous demande, et alors, tu l'as trouvé comment le film ? Vous dites, c'était trop long. Et vexé, il s'en va. Et votre père vous dit, mais t'es malade, il faut toujours mentir. Est-ce que vous appliquez toujours ce conseil ?
Non, mais c'est surtout, il faut toujours mentir pour qu'il ne refasse pas la même chose. J'avais le sentiment déjà à l'époque qu'éventuellement, ça pouvait impacter. C'est que mon avis de petite fille de 12 ans allait impacter et qu'il allait faire un cinéma totalement autre. De toute évidence. Il ne m'a pas écouté, mais après, j'ai compris mieux ces films.
Alors, ce qu'il y a de terrible, là, on a parlé d'un petit clin d'œil qui est plutôt sympa, mais quand vous évoquez l'égoïsme de votre père, il y a une illustration qui est atroce. C'est suite à la mort dans des circonstances terribles de sa femme, Sophie, en Irlande. Il est au plus bas, et vous et votre frère, pour le soutenir, vous décidez d'emménager avec lui. Et au bout d'un moment, il dit, c'est bon, j'ai plus besoin de vous. Vous dites que vous avez eu l'impression d'avoir été congédié. Il vous dit ça va mieux, j'ai même rencontré quelqu'un et il parle de Milita. Alors, qui viendra
déjà, il faut savoir qu'on n'a jamais vraiment vécu avec lui. Donc c'est vrai que sans vraiment m'en rendre compte, d'abord il était au plus mal. Bon, c'était quand même notre père, l'histoire est tragique. Je ne pensais pas un jour devoir vivre une situation pareille. Et c'est vrai que tout de suite avec mon frère, on s'est dit on va aller s'occuper un peu de lui. Et en fait, je crois que ça m'a plu de faire l'infirmière et de trouver...
À domicile.
Ah oui, très à domicile. Et de gérer tout d'un coup, de sentir qu'il avait peut-être un peu besoin de moi aussi. Donc ça a duré 6 mois où on était chacun à l'intendance, moi à la cuisine, ce qui n'était pas la meilleure chose, et aux médicaments, là je suis meilleure.
Attention de ne pas mélanger les deux.
Je suis mieux qu'en cuisinière. Et ça a été 6 mois, je ne vais pas dire 6 mois merveilleux, parce que ce n'est pas une époque merveilleuse, ouais. Mais en tous les cas, ce qu'on a vécu avec lui était assez inattendu. Et je ne pensais pas qu'un jour on aurait cette proximité-là. Alors aussi vite elle est arrivée, aussi vite elle est repartie. Ouais. Et en effet, Melita est rentrée dans sa vie, et je pense après coup, après la blessure de nous être fait un peu, avoir eu le sentiment en tous les cas qu'on avait été un peu virés comme des merdes, je pense que ça n'aurait pas pu être autrement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un était dans sa vie, en effet, il n'avait plus besoin de nous, et alors surtout du jour au lendemain, les relations sont devenues comme elles l'étaient auparavant. Mmh. Et en l'écrivant, je me suis aperçue, entre mille guillemets, de la force après coup de ce qu'on avait vécu pendant cette période.
C'est difficile, Guillemet Todisino, de travailler avec quelqu'un et de lui faire sortir comme ça des souvenirs finalement qu'elle a.
Un verre de Bourgogne.
Ah, ça va ? On vous a au verre de Bourgogne pour vous faire parler ?
Ça aide, c'est
ça
sûr.
Aide.
Et en fait, elle dit des choses, elle fait beaucoup d'humour. Et après, il y a à côté une énorme parenthèse, un peu vide, dans laquelle moi, j'étais censée pénétrer. C'est-à-dire. Tirer les fils des trucs un peu plus douloureux, un peu plus compliqués, ou trouver des significations à ces petites vannes légères, ça c'était un peu plus mon rôle, et après on mettait tout ça en commun.
Toscan, papa et moi, signé Ariane Toscan Duplantier, c'est sorti le 2 mai dernier. Camille Chamou, on passe à vous, vous jouez du norvégien en ce moment sous la direction de Frédéric Bélier-Garcia. Deux pièces courtes, indépendantes mais montées conjointement, une satire de la famille contemporaine, Dixit. Le metteur en scène. Deux pièces graves, mais drôles, tragiques et burlesques à la fois. La première, c'est Retour.
Ça fait 6 mois que tu es en congé maladie. Et tout ce que tu fais, c'est de rester là, devant la fenêtre. Il ne faut pas rester là. Il faut que tu arrêtes. Je n'en peux plus. Les faux espoirs, je n'en peux plus. Gustave est mort.
Alors, un couple en deuil, un ado qui disparaît, ambiance sinistre, jusqu'à... l'inconcevable, l'incompréhensible. Le fils revient et il sonne à la porte. Un fils qui ne va jamais arrêter de revenir, qui va passer son temps à revenir, c'est absurde. Qui peut appeler à plusieurs interprétations, c'est absurde, Albert.
Bah oui, parce que on peut prendre ça au premier degré, l'histoire d'une disparition et des retrouvailles, mais ça peut être aussi les retrouvailles fantasmées par des parents dont l'enfant est réellement mort. Vous disiez dans une précédente émission qu'il y avait plusieurs interprétations, que les spectateurs vous donnaient chacun leur version, c'est un peu ça ?
Exactement, après moi j'ai également mon interprétation, et le metteur en scène aussi, mais il y a une chose
est-ce que vous
est
avez la même
ouverte.
Avec le metteur en scène ?
Alors c'est ouvert, non, nous on a la même,
on a
l'impression que ça parle en fait beaucoup d'une chose très politiquement incorrecte qui est le couple.
Les liens. Réels.
Voilà, c'est-à-dire que finalement, est-ce qu'on serait pas mieux sans enfant ? Et qu'il y a quelque chose comme ça qui sourd dans la pièce, alors que ça commence comme une espèce de pièce norvégienne hyper. Très très dark, avec un père qui regarde par la fenêtre et la neige et je sais pas quoi, et vraiment on se dit oh là là, il y a un enfant mort, et c'est très drôle parce qu'on le fait, on essaye de le faire vraiment très sincèrement, très au premier degré ce
ça
début où on se dit mais mon
Bergman,
Dieu hein. Mais oui, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, je suis tombée dans quoi avec cet enfant mort et ces gens qui regardent la neige, et en fait ce fils revient, n'en finit pas de revenir, et ils sont de moins en moins contents qu'il revienne, et après je ne raconte bien sûr pas vers où ça va, mais pour moi ça raconte deux choses, et pour le metteur en scène aussi, deux choses simultanées qui sont finalement qu'est-ce que le couple avec et sans enfant, et surtout aussi le fait que quand on a un enfant, il y a toujours un moment où il disparaît. Et donc cette figure, cette espèce d'image de la mort et du retour perpétuel de l'enfant jusqu'à, mais de moins en moins présent dans la famille, jusqu'à disparition totale, c'est un peu la métaphore du passage à l'âge adulte et bah au revoir, enfant à qui j'ai tout donné et qui finalement va vivre sa vie loin de moi et s'en connaîtra toujours et toute sa vie. Tu m'entends, mon fils? Bon. Toujours en régie. Et voilà, et donc je trouve que la pièce est très forte, que l'écriture est très forte, qu'elle a une forme presque parodique, en effet, de ce théâtre et de ce cinéma norvégien, mais pour exprimer assez profondément, je trouve, et de manière très politiquement incorrecte, ce que c'est la parentalité.
Et la deuxième pièce, ça s'appelle « Le père de l'enfant de la mère ».
C'est pas chouette quand on fait des choses ensemble, quand on prend le temps de faire des choses ensemble?
Si, et Frida aime, hein, je m'en rends bien compte.
Elle aime quand on fait des choses ensemble.
Bon, c'est un jeune couple qui se partage la garde d'un enfant, hein, une scène ordinaire de la vie qui par la suite, plusieurs variations, hein, et ça va passer du banal à l'inquiétant, même de l'harmonie à la déchirure. Et vous trouvez ça très musical, Albert?
Mais très musical, parce que la phrase qu'on vient d'entendre à l'instant, là, elle est dite par le père, mais cette phrase va être dite légèrement changée, donc variation autour d'un thème, par la mère, reprise différemment ensuite par le père, et de même que la situation initiale semble se répéter, en fait, elle ne se répète pas, il y a des légers décrochages, des variations à chaque fois, et donc l'écriture est absolument formidable, c'est une écriture sous forme de fugue, puisque l'auteur est féru de musique et lui-même compositeur, je crois.
C'est un compositeur à la base, et il a pris quelques topics du quotidien d'un couple avec un enfant, et il les a fait varier, non pas à l'infini, mais dans le sens d'une histoire, alors un sens assez lucide, hein, je dirais, mais effectivement on voit par ces petites variations comment les choses évoluent, alors que le couple au départ s'entend très bien, il y a un enfant très bas âge, etc., et il y a quelque chose qui est à mon avis très moderne, c'est qu'il analyse avec énormément d'humour, mais un peu de cruauté aussi, comment les parents s'arrachent l'affection de l'enfant, et finissent en fait par devenir... Enfin, l'état de guerre qui se met en place, c'est cet état-là de qui va avoir l'amour de l'enfant, l'affection de l'enfant.
Ça déclenche un conflit dans le couple.
Alors on est très loin de cette génération où effectivement les pères étaient... C'est marrant parce que c'est un truc très moderne, je trouve. Quand j'ai lu la pièce la première fois, j'ai dit oh, « c'est extrêmement drôle, mais c'est extrêmement cruel ». Et quand je la joue...
C'était familier pour vous,
cette situation ? Il y a, je sais pas, 20 phrases que j'ai déjà dites. Mais c'est horrible. Et parce que vraiment, quand je les joue et que les gens rient énormément, je me dis « mais c'est monstrueux et c'est vraiment des phrases que j'ai déjà dites ».
Mais vous attendiez pas à ce qu'ils rient autant, les gens ?
Non. Je m'attendais pas
du tout. Parce que quand on regarde, justement, est-ce que c'est déstabilisant? Parce que pendant les deux pièces, ça fait rire.
Oui, ça fait rire. Alors, il y a quand même dans l'écriture une notion. Enfin, l'écriture je trouve, moi, extrêmement ironique. Enfin, voilà, il y a énormément d'humour dans l'écriture, mais les sujets sont assez graves, assez lourds et traitent de choses qui, sociétalement, sont assez brûlantes.
Quand elle est très forte comme ça, cette écriture, quand ce sont des sujets qui sont très très sérieux, qui sont très concernants, et quand on voit qu'on arrive à faire rire avec, est-ce que justement ça ne va pas pile poil dans la direction que vous, Camille Chamou, vous vouliez emprunter, c'est-à-dire celle de, au départ, je veux être Patrice Chéreau, et je me rends compte après que mon vecteur pour réussir artistiquement, ça va être l'humour. Est-ce que c'est pas la conjonction parfaite?
Si, c'est pour ça que je remercie infiniment Frédéric Béli-Garcia de m'avoir convoqué dans cette expérience.
D'ailleurs,
cette
vous lâchez plus. Vous
non,
lâchez
non
plus.
Je le lâche plus. Je vais retravailler avec lui. Là. On repart sur un autre projet parce que je le trouve très très doué, très talentueux. Et c'est vrai que oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut. Moi, je me rends compte au fur et à mesure de ma vie, de ma carrière entre guillemets, que ce qui me plaît, c'est de ne jamais lâcher le prisme de l'humour.
En tout cas, vous avez donné envie d'aller voir Retour, suivi de Le père de l'enfant de la mère. C'est au Théâtre du Rond-Point, c'est jusqu'au 30 juin. Mesdemoiselles, on vous a demandé des titres musicaux qui vont rappeler un souvenir bon, on l'espère. On commence avec vous, Camille, puisque vous avez le micro. Vous allez voir, c'est du bon.
Ah oui ! Oh là là, bah oui, évidemment. C'est grâce à ça que j'ai réussi tous les concours de ma vie. C'est Serge Lama.
Ah oui.
On l'aime bien, Serge Lama.
J'aime beaucoup
Serge Lama.
J'aime beaucoup
Serge Lama. J'aime beaucoup de Serge Lama.
D'aventure en aventure, les portes de l'Atlantique, c'est des chansons magnifiques.
Il y a des très belles chansons, Serge Lama.
Bien sûr. Et écrites par Alice Donna et tout. Ah non, non, mais c'est.
Alors, Guillemette Odissino, est-ce que c'est une raison pour tous nous engueuler autour de la table ?
Non, mais je suis contente qu'on puisse un peu.
Non, mais souvent, c'est bon ton de dire que c'est ringard.
Exactement.
Non, c'est sûr.
Moi, j'adore.
C'est gay.
C'est joyeux, c'est ça. Ça vous rappelle quoi, Camille ?
Et ben, en fait, c'est une chanson à boire que j'ai entendue une fois sur une radio quand j'avais 18 ans et je me suis dit, il y a un parcours libre dans le concours que je vais passer. Tiens, je vais chanter ça. Et parce que je me suis dit, bon, je faisais 42 kilos à l'époque et j'avais une voix hyper cassée.
C'est vrai que vous avez beaucoup pris depuis.
Ouais, j'ai énormément pris.
Vous devez faire 45 maintenant.
Et elle a plus une voix cassée du tout.
Je me suis dit, tiens, ça va être marrant. Ouais, en fait, je vais pas changer. Bon. Et il y a un portrait qui vieillit à la cave. Et je me suis dit, tiens, une vieille chanson à boire de Serge Lama, ce sera marrant. Et le jury était halluciné. Ils m'ont vraiment regardé. Je m'emballais et tout. Sous la table. Et je sentais, j'y allais. Et ils m'ont dit deux fois, genre, c'est merci. Et j'ai jamais entendu le merci. Et j'ai continué la chanson jusqu'au bout du bout.
Personne ne m'arrêtera.
Personne ne m'arrêtera dans
bout.
Une chanson à boire. Et voilà. Et cette chanson m'a toujours porté chance. Je l'ai passée après pour des castings, des auditions. Je sais pas, elle m'a toujours inspirée. Voilà.
Alors, il faut dire que Camille Chamou laisse souvent sa trace dans quelques bars avant de jouer au rond-point. La pièce était rodée à Angers, si je ne m'abuse, et tous les soirs, c'était karaoké. C'est bien ça?
C'est vrai, j'aime beaucoup le karaoké. Et à Paris, bah, c'est vrai qu'on a peu l'occasion du karaoké. Donc moi, dès qu'il y a une création en province ou un film en province, je suis bien contente d'aller trouver le karaoké du coin.
Ce que
j'aime bien, c'est un point d'honneur d'emmener toute l'équipe.
Ce que j'aime bien, c'est le ton que vous prenez pour en parler. On a l'impression que c'est confession intime.
Bien
oui,
sûr.
J'aime le karaoké.
J'aime le karaoké. J'adore le karaoké
c'est
et
génial,
je convertis beaucoup de gens au karaoké.
Il faut venir au Festival de l'Alpe d'Huez où on fait un bon,
super karaoké.
Vous nous organisez ça, rien?
Ah oui.
Ah oui, moi je suis très très karaoké.
Ah mais okay. Ça me fait plaisir, dis donc, on se retrouve autour de cette table.
Ah, ah c'est oui. Bien là. Très ah bah karaoké. Ariane, tenez, justement, on reste dans l'ambiance festive avec
oh,
vous.
La mienne. Je regrette, je
dis
peux pas
Ariane,
changer.
Dis donc, Ariane, c'est gay ça.
Bah, je me suis dit non, France Inter, mignon, la dernière fois j'ai fait Bibi, alors avec Guimet.
Ah oui, j'avais invité Ariane à une de mes émissions, elle a fait Bibi tout doucement.
Ah, et j'ai chanté.
J'adore.
Et elle a chanté.
Et c'est beau ça, dis donc. C'est beau.
Non, mais
c'est
revenons à ça, revenons à ça.
C'est beau. Bah,
Asturias.
Ouais. Les Patriotes.
Les Patriotes, le film Les Patriotes.
Ouais, le film Les Patriotes, premier film dont je me suis occupée en compétition à Cannes. Et tout d'un coup, voilà, l'écran, la grande salle, l'énorme écran, ça part avec ça à fond. Et là, il y a les poils.
Ouais.
Voilà, et espèce de fierté, de moi je peux avoir la larme sur un moment d'émotion comme ça.
Guillemette, changement d'ambiance.
Ah. Oh, trop bien.
Ah bah oui.
Ah ouais. C'était un cordonnier. T'aurais dû me dire, j'ai un peu chaud. Dans un village dont le nom
m'a échappé. Faisait des souliers. Jean-Jacques Goldman, qu'est-ce que ça vous rappelle?
Le karaoké.
On est l'année de mon bac.
Ah bon?
Déjà, ça sort l'année de mon bac.
Ah, c'était il y a une douzaine d'années.
C'est cela même.
C'est ça.
C'est l'album entre gris clair et gris foncé. C'est Goldman. Et cette chanson, pour moi, elle. Ce jour, je vais dire de lui. Changer la vie. Et ça, en fait, je l'ai fait écouter assez rapidement à mes enfants, leur disant quel que soit le métier que vous choisissez,
oh,
quelles que soient les passions que vous avez. Même si vous faites un petit truc dans votre coin, mais que ça vous plaît et que vous le faites extrêmement bien, à votre manière, vous changerez la vie.
Oh, et donc, je vais faire écouter à Constantin.
Et maintenant, c'est une espèce de chanson récurrente. Chaque fois que ma fille a envie qu'on on se trémousse dans le salon, elle me dit, on se fait un petit coup de changer la vie. Et on danse sur changer la vie en hurlant que si on change un jour de job, on fera des pompes et ce sera chouette.
Vous avez compris, ce sont les conseils de Guillemette Odissino. Si vous voulez changer la vie, allez-y, écoutez du Jean-Jacques Goldman. Ça vous fera du bien. Vous pouvez écouter également du Clara Luciani, nu dans Vous les femmes sur France Inter. On est ensemble jusqu'à 18h.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chante ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide, plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle, celle dont j'ai l'air? Souvent je change.
J'ai enlevé mes bijoux, t'es moi qui est le noir.
Clara Luciani, nue sur France Inter, dans Vous les femmes.
Vous les femmes.
Oh, ange de douceur.
Daniel Morin.
Étant sur ma souffrance.
Sur France Inter.
Le charme caressant de ta douce présence.
Douce présence également de Camille Chamois, l'affiche de deux pièces, Retour et Le père de l'enfant de la mère, deux pièces courtes signées Frédéric Bradberg, mise en scène par Frédéric Bellier-Garcia au théâtre du Rond-Point jusqu'au 30 juin. Si ça vous a pas donné envie d'y aller, je sais pas ce qu'on peut faire de plus.
Ouais, moi non
deux
plus.
Pièces formidables, vous allez voir. C'est dur, mais ça fait rire.
Oui.
C'est bien ça? On est
exactement,
d'accord, Camille?
Exactement, Daniel.
Ariane Toscan du Plantier, Toscan, Papa et moi aux éditions de La Martinière, écrit avec la complicité de. L'incroyable Guillemette Odyssée.
Mais peut-être qu'on pensait que ça va devenir suspect. Non.
Est-ce que ça va être Guillemette écrit avec la complicité d'Ariane ouais. Toscan?
J'ai l'impression que ça sera mieux. Ouais. Ça va devenir suspect. Stop.
Vous croyez? Chaque semaine, Alberto.
Je sais que vous m'aimez, Daniel Morin.
Je vous aime d'amour. Albert Algou nous branche le portrait d'une femme quasi inconnue et qui pourtant était exceptionnelle. Et aujourd'hui, c'est le portrait de Florence Dixie.
Et on va voir, elle est un peu beaucoup d'actualité. Alors, il était une femme, Florence Dixie. Fille du 8e marquis de Queensberry, elle naît en Écosse en 1855. Dès son plus jeune âge, elle se passionne pour le sport, montre de belles dispositions pour l'écriture et rêve de voyage. Ainsi, lasse des mondanités aristocratiques, Dixie part pour la Patagonie. Et de son voyage, elle ramène un jaguar, mais cet animal de compagnie insolite tue plusieurs daims dans le parc royal de Windsor et doit être, le pauvre, placé dans un zoo. En 1880, Dixie est envoyée en Afrique du Sud par le Morning Post comme correspondante de guerre, puis elle rédige des articles d'inspiration progressiste. Ainsi, favorable à la Home Rule, l'autonomie interne de l'Irlande, elle échappe à une rocambolesque tentative d'assassinat ourdie par certains nationalistes. Quasi contemporaine de la suffragiste Emmeline Pankhurst, Dixie s'engage aussi dans le rude combat pour l'émancipation civique des femmes. Elle propose l'égalité des sexes dans le mariage, le divorce, la mixité dans l'éducation. Elle est membre de la National Union of Women's Suffrage Societies, pardon pour mon accent, revendiquant le droit de vote pour les femmes. En 1890, Dixie publie Gloriana ou la Révolution de 1900, qui peut être considérée comme un des premiers romans de science-fiction féministe, dont l'héroïne Gloriana se fait passer pour un homme, afin d'être élue à la Chambre des communes, à la suite de quoi les femmes obtiennent le droit de vote. Florence Dixie joua aussi un rôle déterminant dans la fondation du football féminin. Et c'est à ça où je voulais en venir. C'est en Écosse, le 7 mai 1880, que se déroule le tout premier match de football féminin. Bientôt interdit en Écosse, le foot féminin poursuit son aventure en Angleterre, grâce notamment à Florence, qui devient présidente et mécène du British Ladies Football Club. Et elle déclare, les filles doivent entrer dans l'esprit du jeu avec de l'âme et du cœur. Les matchs organisés dans toute l'Angleterre attirent un public énorme. Ainsi, le 23 mars 1895, au stade Crouch End, le premier match officiel du British Ladies Football Club contre une équipe nord-londonienne, eh bien ce match se dispute devant un public de 15 000 personnes. Mais dès le début des années 20, les instances masculines refusent d'admettre des licenciées féminines qui doivent alors s'organiser en fédérations et ligues indépendantes en Angleterre comme en France. Pour la petite histoire, il faut quand même le rappeler, le championnat de France féminin s'arrête en 1933 et le régime de Vichy en 1941 décrétera que le foot est nocif pour les femmes et il l'interdira. Il faudra attendre la fin des années 60 pour assister au renouveau du foot féminin. Les fédérations anglaises, françaises et allemandes reconnaissent officiellement cette pratique en 1969. À partir de là, le nombre des licenciés augmente rapidement. Donc l'histoire du foot féminin, il est lié à l'histoire du féminisme et c'est important de le rappeler. Florence Dixie meurt en 1905. Total respect pour Florence Dixie.
Vous aviez entendu parler de cette jeune femme ?
Non, mais j'adore cette
chronique. C'est important de la connaître.
Important de la connaître en pleine Coupe du Monde féminine qui a lieu, je vous le rappelle, en ce moment en France.
Vous les femmes...
Oh, c'est trop horrible !
Sur France Inter.
Ariane Toscan du Plantier, vous êtes directrice de la communication et du patrimoine chez Gaumont. Dans trois jours, c'est l'inauguration de l'exposition Gaumont à l'hôpital La Riboisière. Qu'est-ce qu'on va y voir ?
C'est soigné par le rire. Donc, on va voir que des gens qui rient en énorme partout dans les jardins et dans les coursives de ce magnifique hôpital La Riboisière. Et surtout, on a organisé un petit ciné-club. Alors, faut-il être malade pour avoir accès aux chambres ? Mais que trois fois par jour, nous montrerons des films Gaumont dans les télés des chambres des hôpitaux. Et j'aimerais bien qu'on arrive à le pérenniser.
Là, puisqu'on parle cinéma, Camille Chamou, en janvier prochain, vous serez à l'affiche d'un film avec Chantal Lobby, un film que vous qualifiez de super. C'est quoi ?
C'est vrai. Il est super.
Ah bon ? C'est étonnant.
Alors vraiment, super. Il est trop chouette. C'est vrai, je pense qu'il va être très 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 bien. C'est Chantal Lobby et moi.
Et non, ça va être super.
C'est vraiment, ça va être très très chouette et ça s'appelle Sol, en effet. Et c'est une très jolie rencontre.
Vous avez bien mérité des cadeaux, mademoiselle Elicado, c'est l'affaire d'Alberto.
Alors, pour vous, Guillemette Odichino, je vous l'avais promis depuis longtemps, Mikhaïl Bulgakov, le roman de Monsieur de Molière, Folio, qui est franchement certainement la meilleure biographie écrite sur Molière, c'est très très plaisant. Ensuite, deux livres très plaisants également, publiés par les excellentes éditions Les Plumées, qui retrouvent, rééditent, réhabilitent des œuvres rédigées par des auteurs Alors, d'abord, pour vous, Ariane Toscan-Duplantier, La Belle et la Bête de Gabrielle Suzanne de Villeneuve, qui en 1740 écrivit la première version moderne de ce conte, qui donnera lieu à un film plus tard, un film de Cocteau. Et Gabrielle Suzanne de Villeneuve, c'est une des premières femmes à s'être lancée au XVIIIe siècle, à 26 ans, dans la carrière littéraire. Et chez le même éditeur,
même âge que moi.
Les Plumées, alors ça c'est pour vous, Camille Chamou, pardon, vous êtes loin, Trois sœurs rivales de Marie-Louise Gagnère-Lal, c'est un auteur qui était né en 1864, c'était une femme qui avait interpellé l'Académie française sur la féminisation nécessaire des noms de métiers. Elle faisait partie de la Société des gens de lettres. Elle a une œuvre très intéressante pour l'émancipation des filles par l'éducation. Elle était pacifiste, anticléricale et très drôle et tragique à certains moments aussi, comme la pièce que vous jouez d'ailleurs en ce moment, comme les deux pièces. Voilà, Trois sœurs rivales.
Merci beaucoup.
L'émission est terminée, les amis. Aujourd'hui, nos invités étaient Ariane Toscan-Duplantier pour Toscan, Papa et moi aux éditions de La Martinière. Elle était accompagnée de celle qui a coécrit le livre, Guillemette Odissino, l'étoile la plus scintillante de Télérama. Également avec nous, Camille Chamou qui joue jusqu'au 30 juin dans deux pièces courtes signées Frédéric Bradberg, Retour et le père de l'enfant de la mer au théâtre du Rond-Point. Merci Albert Algou à la réalisation de cette émission, Marie-Nicole Rimbaud, attachée de production Christine Kern, à la technique l'excellent Rémi Sistiaga, programmation musicale Thierry Dupin. La semaine prochaine, nos invités seront Sonia Camet et Mélodie Mouret. Au revoir, bon dimanche à l'écoute de France Inter, ça va de soi. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 6h57.
Merci.
Si tous les hommes étaient comme ça.
Ah oui.